Bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur Radio Alpes-Mancelles. Un magazine social qui parle des associations, du handicap et de la société. Alors si vous souhaitez récupérer un dépôt de garantie pour une location, vous pouvez faire appel à l'ADIL. Mais qu'est-ce que l'ADIL ? Pour en parler sur notre antenne, nous recevons Gwenaëlle Nedelec, directrice de l'agence départementale d'information sur le logement de l'Orne, l'ADIL.
Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs. Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin. Va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante.
Alors, Madame Nedelec, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, présentez-nous l'ADIL. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'ADIL, c'est une agence départementale d'information sur le logement. Donc, on est une structure de 4 personnes avec 3 juristes et on répond à tout public, que ce soit effectivement locataire, bailleur, institutionnel, donc les collectivités, les professionnels, le tout de façon gratuite, neutre. Et on reçoit aussi bien dans nos bureaux que par téléphone ou sur les permanences du département. Voilà. Le tout est gratuit. Hein.
Concrètement, quel est le rôle ?
Alors, le rôle, c'est d'informer sur la réglementation. Donc, notre rôle est neutre. On va aussi bien, effectivement, informer le locataire qui va se poser des questions, que le propriétaire qui va également se poser des questions, ou même quelquefois les agences ou autres. L'intérêt en la matière, c'est d'intervenir en amont pour éviter par la suite les problèmes et les conflits, d'avoir fait des mauvais choix. Donc notre but, c'est d'éclairer les personnes pour qu'ils fassent le bon choix et qu'ils s'adaptent au mieux à la réglementation qu'ils doivent appliquer, aussi bien les bailleurs que les locataires, puisque les droits des uns sont les obligations des autres et inversement.
Justement, pourquoi contacter la DIL ?
Alors, on contacte la DIL souvent lors de la prise d'un logement, par exemple. Donc, on va se poser la question, par exemple, de l'accès au logement. Donc, comment puis-je avoir un logement ? Est-ce que je peux avoir éventuellement une aide et sous quelle forme pour financer, par exemple, le dépôt de garantie ? Est-ce que, ensuite, effectivement, quand je prends le logement, combien je vais devoir payer immédiatement ? Par exemple, on peut avoir des honoraires d'agence, on peut avoir effectivement le premier loyer, on peut avoir le dépôt de garantie, et puis quel est le montant maximum de ce dépôt de garantie puisqu'il est défini par la loi.
Et qu'est-ce que veut dire ADIL ?
ADIL, c'est Association départementale d'information sur le logement. On est une agence qui fait partie d'un réseau. Il y a à ce jour 86 ADIL dans 86 départements. Et le rôle de ces ADIL-là, c'est effectivement d'informer sur toute la question logement. Là, on parle du locatif, mais on peut aussi bien renseigner sur la construction, sur les compromis. On fait des lectures de compromis, par exemple, lectures de contrats. On peut informer également sur tout ce qui est copropriété, sur la fiscalité. On fait aussi des plans de financement, en amont ou pas. Le tout, c'est à chaque fois, il y a une question logement. La DIL est compétente pour répondre à cette question logement sur le domaine juridique, fiscal et financier.
Et comment fonctionne la DIL de l'Orne ?
Alors, la DIL de l'Orne fonctionne comme toutes les autres ADIL, effectivement. On a des conseillers qui vont effectivement vous recevoir, alors ou par téléphone ou physiquement, et qui vont vous donner un avis sur votre questionnement, des textes appuyés par des textes réglementaires ou de la jurisprudence, et qui vont expliquer la réglementation. Parce que bien souvent, les personnes ne connaissent pas la réglementation, mais quand même quand ils ont accès à l'information, quelquefois ne comprennent pas toujours le texte, soit parce qu'il est compliqué, soit parce que effectivement les gens n'ont pas forcément de base juridique et peuvent faire assez facilement des confusions. Donc là, on va expliquer le texte et on va aussi expliquer des situations, parce que quelquefois les gens se sont mis dans des situations où ils ont du mal à exprimer tout ça, c'est-à-dire qu'on a fait une bêtise par exemple, comment on va faire maintenant pour régler tout ça, pour que cela revienne dans le bon ordre, voilà. Donc, quelquefois, on a des choses aussi qui s'entrechevêtrent, c'est-à-dire que le bailleur peut avoir fait une bêtise, le locataire en a fait une autre, alors finalement, 0-0, la balle au centre. Mais comment, effectivement, on peut se sortir de ces situations-là ? Et quelquefois, quelle est la moins mauvaise des solutions quand on est parti sur des éléments un peu plus conflictuels ? Mais, encore une fois, nous, on est là de plus en plus et au maximum. Et pour nous, l'idée, c'est d'intervenir très en amont pour éviter ces conflits, pour que tout soit plus fluide, pour que les gens connaissent leurs droits et effectivement ensuite appliquent correctement la réglementation et que tout le monde y trouve son compte.
Et quel est votre rôle en tant que directrice ?
Alors en tant que directrice, je gère la structure, bien évidemment. Je participe aussi au fait que les salariés soient recrutés, soient effectivement aussi soient informés, puisqu'en fait au niveau national, nous avons un appui réglementaire, c'est-à-dire qu'effectivement notre structure nationale nous envoie les actualités, les dernières actualités avec effectivement les textes qui viennent de passer, par exemple, et du coup, nous, on met constamment à jour, parce que c'est compliqué aussi d'être toujours à jour de la réglementation, et il ne faudrait pas être avec une réglementation ancienne, par exemple, des personnes d'ailleurs qui louent depuis 10 ans, est-ce que effectivement, à un moment donné, la réglementation a changé, ils ne sont pas forcément informés au fait des choses, et quelquefois, effectivement, peuvent appliquer des textes qui n'ont plus lieu d'être appliqués.
Et justement, quelles sont les aides que vous proposez ?
Alors nous, la question c'est, en fait, soit on va informer directement la personne, soit si, par exemple, nous on donne jamais d'argent, si effectivement il y a nécessité d'une aide, par exemple, financière, on va s'appuyer sur d'autres structures, avec des questions quelquefois de l'ordre de chaque situation. Par exemple, un salarié n'aura pas forcément le même relais, on ne va pas l'envoyer vers le même relais que, par exemple, la personne qui est au RSA, parce que ce ne sont pas les mêmes institutions qui vont intervenir dans l'aide qui peut être obtenue. Donc là-dessus, nous on va effectivement faire l'analyse du dossier, on fait une analyse juridique, et ensuite on donne l'analyse aux gens. Si effectivement il y a besoin d'être relié par une autre structure, effectivement, on va renvoyer vers l'autre structure après, par exemple, pour une aide financière, mais qui peut être aussi une aide, j'en sais rien, on a des personnes qui, quelquefois, sont violentées, ont besoin d'un accès au logement, on va les renvoyer vers des structures ad hoc.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boy aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Parlons maintenant bien sûr du dépôt de garantie. En effet, comment récupérer ce dépôt? Déjà, qu'est-ce que le dépôt de garantie?
Alors le dépôt de garantie, c'est une somme qu'il va falloir effectivement donner au bailleur. Donc ça va être une somme qui va sortir du portefeuille financier du locataire pour être transférée vers le portefeuille financier du bailleur. C'est une somme qui garantit le paiement des loyers et des charges, notamment à la sortie. C'est-à-dire que quand la personne va quitter les lieux, le propriétaire a ce fonds qu'on appelle le dépôt de garantie à disposition pour effectivement puiser s'il reste des loyers et des charges et des dégradations éventuelles du logement dont le locataire pourrait être redevable.
Et comment le récupérer dans un premier temps?
Alors, la question, c'est de savoir si on doit le récupérer. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a des impayés de loyer, si on a des dégradations sur le logement, si on a des charges qui sont dues, notamment la question en ce moment, c'est les charges d'énergie qui n'ont pas toujours été mises au bon niveau du fait de leur augmentation, il se peut qu'effectivement, cette somme-là, on ne la récupère pas parce qu'elle est affectée au bailleur qui a lui payé pour le compte du locataire. Ensuite, si effectivement ces sommes-là sont récupérables en totalité ou de façon partielle, à ce moment-là, le bailleur est tenu de les restituer. La plupart du temps, il la restitue. Et puis, quelquefois, ça peut poser discussion. Soit ça peut poser discussion parce qu'on n'est pas d'accord sur le montant des sommes retenues. Donc, c'est là où la DIL intervient sur l'analyse juridique et donne effectivement son avis et les éléments qui permettent effectivement à chacun, que ce soit bailleur ou locataire, d'avancer son argumentation. Soit, effectivement, cette somme-là, si vous voulez, elle n'est pas discutée parce que le bailleur, lui, il doit par exemple la totalité et il ne souhaite pas la restituer. À ce moment-là, on a plusieurs domaines d'intervention. On a le domaine amiable, on envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Soit, effectivement, si ça n'aboutit pas, on peut saisir la commission de conciliation, qui est une commission, effectivement, de l'ordre de l'État, hein, une commission amiable. Et ensuite, le juge, si vraiment ça n'aboutit toujours pas malgré cette tentative de conciliation. Après, c'est le juge qui prendra la décision au vu des éléments apportés par chacun. Et là, il faut faire attention aux éléments qu'on apporte au juge parce qu'on ne peut pas dire simplement sur la parole verbale qu'on a raison et que l'autre a tort. Donc, il va falloir effectivement donner des pièces et on est là exactement aussi pour expliquer comment se passe une procédure et pourquoi effectivement on a, entre guillemets, la capacité ou l'incapacité à récupérer des fonds.
Et concrètement, quel est le délai légal de restitution du dépôt de garantie après la résiliation du bail ?
Alors, la résiliation du bail, c'est pas celle-là qui va être prise en compte. Ça va être la remise des clés. Parce qu'en fait, on peut avoir des personnes où le bail est résilié, je dis n'importe quoi, fin mars, et qui vont quitter les lieux plus tôt, ou qui, parce qu'ils n'auront pas trouvé de logement ou pour raison X ou Y, problème de santé ou autre, n'auront pas pu faire la restitution des clés à la date de la fin de contrat. Donc à partir de ce moment-là, on a des gens qui partent avant, des gens qui partent après, et c'est cette remise de clés lors du départ qui va effectivement faire office de point de départ de restitution. Donc on oublie effectivement la résiliation, on part sur la remise des clés. Déjà, il faut avoir un document de remise des clés. Quelquefois, ça pose souci parce qu'il y a des gens qui sont partis sans remettre les clés ou qui n'ont pas de document de remise des clés. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça fait partie de l'analyse qu'on réalise. Et le deuxième point, c'est effectivement, à compter de cette date, on a deux éléments. Soit effectivement, on a des dégradations dans le logement qui peuvent être imputées au locataire, soit on n'a aucune dégradation. Si on n'a rien à redire sur le logement, le délai est de un mois à compter de cette remise des clés, puisqu'en fait le bailleur n'aura que les charges à faire. Et si on a effectivement des dégradations, le bailleur va aller à la pêche aux devis ou aux factures, et du coup, la loi lui permet d'avoir un délai supplémentaire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça sera deux mois après la remise des clés.
Et justement, comment ça se passe si le dépôt de garantie n'est pas remboursé ?
Si le dépôt de garantie n'est pas remboursé, c'est ce qu'on revient à dire, c'est-à-dire qu'au départ, on est sur un délai d'un ou deux mois, et ensuite, l'aide recommandée, saisine éventuellement de la commission de conciliation ou du juge.
Et en effet, plusieurs recours possibles.
Oui, et c'est des recours qui vont en graduation, c'est-à-dire que des bailleurs, quelquefois, au simple rappel verbal, ne vont pas obtempérer. Quelquefois, ils vont obtempérer. D'autres fois, c'est le recommandé qui va permettre d'obtempérer ou pas. Et d'autres fois, après, on arrive sur la commission de conciliation, le juge. Là, c'est souvent qu'il y a un désaccord sur le montant de la restitution.
Mais souvent, la récupération de cette caution, c'est un vrai parcours du combattant. Pourquoi ?
Souvent. Je pense que c'est plus rarement, mais je pense que les gens qui ont eu un souci s'en souviennent. Et donc, comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure, si vous voulez, il y a plus de trains qui arrivent à l'heure que le reste, mais effectivement, on s'en souvient quand on est obligé un peu plus de ramer dans le dossier. Là-dessus, le parcours du combattant, comme je vous dis, c'est pas forcément le cas. Quelquefois, certaines personnes aussi contestent l'état des lieux entrant. Or, l'état des lieux entrant, quand il a été mal fait, j'ai envie de dire, on se le coltine à la sortie. Et malheureusement, certains s'arc-boutent sur l'état des lieux entrants qui a été réalisé des années et des années plus tôt, quelquefois, et alors que effectivement l'affaire est déjà pliée. Donc après, vous avez des gens qui sont de mauvaise foi, des deux côtés, que ce soit des locataires ou des bailleurs. Et donc du coup, comme dans la vraie vie, pour un peu tout et n'importe quoi, quand on a du conflit, effectivement, les choses ont tendance à plutôt s'envenimer et puis pas toujours effectivement être calme et posé et rationnel.
Alors rappelez-nous justement pourquoi faire appel à la DIL.
Maladie, effectivement, est d'une part gratuite, donc ça permet effectivement d'avoir une analyse juridique faite par des professionnels, hein, des experts sur le logement, puisqu'on est des juristes spécialisés dans le domaine du logement. On va donner un avis neutre. On n'est ni rémunéré par les uns ni par les autres. Nous, on est rémunéré par des puissances publiques. Hein. On est créé par le département, puisque comme son nom l'indique, elle a dit, il est départemental. On est également financé par l'État et par d'autres partenaires publics et privés. Et on n'a aucun intérêt, ni dans les uns ni dans les autres. On n'est pas financé par une partie plutôt que l'autre. Donc à partir de ce moment-là, la neutralité permet effectivement d'avoir du recul et de l'objectivité et effectivement une information claire et précise sur la réglementation. Après, tout à chacun, ça permet de réfléchir et ça permet de voir la solution ou les solutions sur lesquelles les gens vont se positionner.
Et la DIL s'adresse aux locataires et aux propriétaires.
On s'adresse à tout le monde, pas uniquement non plus aux locataires ou aux propriétaires. On s'adresse également aux institutions. Quelquefois, on a des collectivités qui peuvent effectivement nous soumettre certaines analyses. On s'adresse également aux institutionnels, un petit peu de tous azimuts, et aux professionnels. On a des agences aussi qui nous appellent. Voilà. Donc du coup, pour notre professionnalisme, et on est reconnu en la matière.
Est-ce que vous pouvez nous communiquer des contacts, notamment les contacts de la DIL de l'Orne, pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur celle-ci?
Oui, bien sûr. Donc, nous, on est présents sur les principales villes de l'Orne, hein, sur des permanences une fois par mois. Donc là, effectivement, c'est possible d'aller sur notre site. Sur notre site, adil61.org. Donc, à partir de ce moment-là, on peut également aller sur le volet téléphone, 02 33 32 94 76. Et on peut également, effectivement, venir en rendez-vous sur notre centre principal à Alençon, au 88 rue Saint-Blaise. On reçoit quelquefois également sans rendez-vous, mais ça dépend de notre disponibilité, bien sûr.
Un mot à rajouter ?
On vous remercie pour cette question. Et puis, on espère qu'effectivement, ça puisse servir aux gens, parce que bien souvent, on est connu quelquefois quand il y a le problème et le bouche-à-oreille fait que les personnes qui ont un problème sont renvoyées vers la DIL. Mais nous, ce qu'on espère, c'est d'être le plus connu pour que les personnes viennent nous voir en amont et évitent les problèmes et évitent effectivement toutes ces complications qui font perdre du temps et de l'énergie à beaucoup de personnes, alors qu'effectivement, une simple, entre guillemets, éducation juridique permettrait d'avoir plus connaissance de tout ça, être plus serein et puis ne pas perdre son énergie là-dessus. Voilà. Juste un petit mot peut-être, c'est sur la dernière réglementation, sur tout ce qui est interdiction maintenant de louer ce qu'on appelle les logements J+, hein, c'est-à-dire des logements très très énergivores. Et donc les bailleurs ne sont pas toujours au fait des choses, les locataires non plus. Donc il ne faut pas hésiter à regarder pour les locataires l'étiquette énergétique et les bailleurs nous appeler pour savoir effectivement quelles sont les dispositions, puisque bientôt on ne pourra plus louer les G et les F. Voilà.
Se souvient-il de nous, de nos promesses? Il m'arrive de me rendre à la presse de nos grands amours.
Je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre, confiant sourire au coin des lèvres. Et puis je lève la tête, je vois qu'il y a de la lumière, d'autres que nous.
Passeront leur nuit d'hiver au coin du feu doux.
D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivront de longues nuits de fête. D'autres que nous feront la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous feront pareil, 14 boulevard Saint-Michel.
Les voisins se souviennent-ils de nous, de notre tendresse? Je retourne à notre ancienne adresse pour en découdre.
Le digicode n'est plus le même, la gardienne à la retraite. Alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de lumière, d'autres comme nous.
Pleurs de chagrin sous un réverbère, loin des feux doux.
D'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres. D'autres que
14 boulevard Saint-Michel.
On n'avait rien, on était tout. On était nous.
On n'avait rien, mais on était tout.
Comme d'autres avant nous.
D'autres comme nous, on fait l'amour sous ses fenêtres.
D'autres comme nous, ont vécu de longues nuits de fête.
D'autres comme nous, on fait la guerre, oui mais peut-être.
C'est morandi pour toujours, la vie était tellement plus belle.
14 boulevard Saint-Michel.
Alors Madame Nédélec, je vous remercie et je vous félicite pour toute l'aide que vous apportez et je vous dis à bientôt.
Très bien, merci beaucoup à vous. Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Votre magazine Vie solidaire est terminé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Alpes-Mancelles.